Rachel Kahn a un père gambien et une mère juive ashkénaze, une double identité qu'elle assume notamment dans ses écrits. Cette écrivaine est également actrice et conseillère politique. Et ce jeudi, c'est-à-dire demain, 23 mai à 20h à l'espace Rachi à Paris, eh bien, elle lira Golda Meir. L'occasion pour nous, et pour Lise, de l'interviewer sur les engagements de la seule femme qui fut Premier ministre de l'État d'Israël, mais aussi de parler de son dernier ouvrage intitulé « Encore debout, la République à l'épreuve des mots », ça c'est le titre de son bouquin, et elle parlera également dans cette rencontre des attaques dont elle a été victime depuis le 7 octobre, notamment sur les réseaux sociaux, attaques antisémites bien évidemment. Voici donc Rachel Kahn, elle est au micro de Lise Benkemoun.
Rachel Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes ancienne championne, juriste, écrivaine et conseillère politique, donc beaucoup de casquettes. Cette semaine à Paris, vous lisez dans le cadre du Centre d'art et de culture des extraits de Golda Meir. Dites-nous quand vous avez rencontré, entre guillemets, Golda, et est-ce que c'est une inspiration pour vous ?
Oui, enfin, je l'ai rencontrée symboliquement, disons,
oui,
petite, parce que ma mère en parlait beaucoup à la maison. Je crois que c'est... même si elle ne voulait pas forcément se définir comme ça, mais c'est quand même la première femme Premier ministre, la meilleure homme politique d'Israël, mm-hmm. comme on pouvait le dire,
exact.
Mais petite en fait. C'est quand même une référence, à mon avis, pour toutes les femmes qui sont embarquées dans une histoire mondiale. Voilà, donc des petites, forcément, ce nom résonne. Mm-hmm.
Et qu'est-ce que vous avez découvert dans ces extraits que vous allez lire le 23 mai à Paris ?
Mais ce que j'ai découvert, et c'est ce qu'on connaît peu d'elle, c'est tout ce cheminement, en fait. Depuis toute petite en Russie, à Pinsk, avec ses parents, la détermination de sa maman... qu'elle a hérité aussi de ses grands-parents, notamment de sa grand-mère, qui portait le même prénom qu'elle. Donc en fait, dans cette lecture, on retrace à la fois le parcours de cette femme, mais aussi quelque chose qui est éperdument nécessaire aujourd'hui, c'est l'histoire de l'État d'Israël. Une histoire, on sait très bien hein, que certaines personnes veulent... la modifier, réviser cette histoire, notamment l'histoire de la Palestine, avec ces Juifs qui sont là depuis, on va dire, les Juifs de 5000 ans, les premiers Palestiniens, en réalité. Donc on retrace tout ça, et puis on retrace aussi comment c'était cette battante, en fait, est partie de rien pour aller plaider la survie du peuple juif devant les plus hautes instances internationales.
Alors, deux combats qui sont profondément ceux de Golda, c'est quelque part donc le féminisme, même si elle le définissait pas comme ça, et le combat pour l'État d'Israël. Et c'est deux causes, Rachel Kahn, qui vous concernent particulièrement et qui, depuis le 7 octobre, malheureusement, sont bien sur le devant de la scène, pas dans le bon sens.
Oui, exactement. C'est vrai que sur la question du peuple juif, de la terre d'Israël, et effectivement la question aussi de toutes les formes d'injustice en réalité, pas simplement la question des femmes, mais toutes les formes d'injustice qui sont tellement comme instrumentalisées aujourd'hui. Moi, ce qui me fait une peine immense, c'est comment, à quel point la soi-disant lutte contre l'intolérance, la soi-disant lutte contre le racisme est devenu un cheval de Troie pour devenir de manière très tranquille antisémite. Moi, c'est ça qui me rend dingue par rapport à l'ensemble de notre histoire. On est en 2024, à l'heure où certains vont dans l'espace, Thomas Pesquet, on a des avancées démentes, l'intelligence artificielle et comment on est aussi pauvre dans nos humanités. Donc voilà, donc retrouver le parcours de Golda, retrouver nos fondamentaux, retrouver l'essence aussi de cette terre qui est la terre d'Israël, et le parcours en fait des Juifs pendant toutes ces générations je pense qu'on a besoin en fait d'entendre la parole de cette femme. Ouais.
Alors, depuis...
Parce que cette parole-là, elle redonne de la force aussi, en fait. Vous voyez, dans les combats qu'on a aujourd'hui.
Ouais. Oui, ça, Golda, elle ne manquait pas de force. Rachel Kahn, depuis 2021 déjà, avec votre livre qui s'intitulait « Racé, l'Observatoire », vous avez condamné tous ces mots qui séparent, tout ce vocabulaire qui, sous prétexte de combattre le racisme, finalement enfonce le couteau dans la plaie.
Oui, dans la plaie, et quelle plaie hein, ça, c'est la 11e plaie d'Égypte, hein, presque. Hein. C'est vraiment ça, parce que là, c'est l'histoire moi, ce que j'appelle aujourd'hui les victimocrates, en réalité, et c'était fou, parce que lorsqu'il y a eu le 7 octobre, c'est comme si j'avais une nouvelle fois compris ce que j'avais écrit dans Racé, en fait. Parce que quand j'ai entendu les mots, notamment, de cette présidente d'Harvard, dire que finalement c'était pas très grave d'insulter les juifs, que finalement leur dire que Hitler avait mal fait leur travail ou avait mal fait son travail ou autre, finalement c'était pas du harcèlement et que ça dépendait du contexte, c'est très précisément ce que j'énonçais dans Racé. Cette instrumentalisation de religion, cette instrumentalisation notamment de la religion musulmane, l'instrumentalisation de la couleur de peau pour vous enjoindre, vous essentialiser pour finalement avoir la haine du juif, c'est affreux. C'est-à-dire que là, on est dans une régression, non seulement de ce que la France nous a offert, de notre héritage républicain, mais une régression aussi de tout ce que l'Europe et le droit international a porté après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste.
Oui. Alors, justement, on se rappelle du
fameux... J'entends dans votre voix que ça vous rend triste, mais oui.
Ah oui, je suis tout à fait triste, bien sûr, Rachel, parce que aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste pour l'instant sur l'avenir ni de la République ni de cette colonisation mentale qu'on voit l'œuvre dans tous les campus du monde aujourd'hui.
Tout à fait, c'est exactement le mot, c'est-à-dire qu'on se fait coloniser par les décoloniaux, on se fait raciser par les gens qui se disent antiracistes, on se fait dominer, intimider, disqualifier, terroriser par les gens qui se disent de la minorité victime. C'est absolument insupportable. Mais mon dernier ouvrage, qui s'appelle « Encore debout », c'était pour tenter de nous redonner aussi cette force, comme celle de Golda, peut-être, pour vraiment ne jamais baisser la tête, même si c'est difficile.
C'est vrai. Alors, je disais que juste avant le 7 octobre, on était à l'été 2023, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique en France. C'était un tweet de Medine à votre rencontre qui avait écrit « Rescampé », qui ensuite s'était soi-disant excusé. Depuis le 7 octobre, Rachel Kahn, vous avez été beaucoup victime d'injures et de bashing sur X.
Bah oui, mais juste sur cette affaire de cet influenceur de haine, hein, ce n'est pas un rappeur, parce que pour moi le rap c'est quelque chose de noble, le hip-hop c'est quelque chose de noble qui aujourd'hui s'est complètement transformé comme un vecteur d'idéologie de haine. Le hip-hop normalement il était pour rassembler et c'est pour lutter contre toutes les formes de discrimination, donc c'est pas du tout ça. C'est pas moi qui ai été attaquée à travers ce tweet, hein, c'est l'ensemble de la République, ce ricanement à la manière de Jean-Marie Le Pen, si vous voulez. Ça a donné la tonalité de ce qui allait se passer après le 7 octobre presque, et c'est fou parce que malheureusement c'est comme si je veux dire Adochem. C'est comme si Adochem m'avait préparé à rester debout avant 7 octobre, cette histoire. Donc c'est assez fou. Après, sur la haine en ligne, je viens d'être attaquée par Rima Hassan, maintenant, qui me traite d'ordure sur X. Moi, je remercie quand même l'ensemble des Français qui m'envoient des messages personnels, très chaleureux. La France n'est pas un pays antisémite, c'est juste... Alors, c'est assez bizarre parce que finalement, toutes ces personnes qui n'aiment pas la France se comportent exactement comme la personne qui avait dénoncé mon grand-père pour l'envoyer, en fait, à Drancy puis à Pithiviers. Donc, ce voisin, en fait, qu'il avait dénoncé en le disqualifiant. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'aime pas la France, mais à la fois, il se retrouve parfaitement dans l'héritage de Pétain et de Papon. Donc, c'est assez étonnant. Donc, oui, il y a toute cette haine, tous ces flots d'injures, ces intimidations et tout ça. Je ne me tairai pas, je reste debout. Mais je voulais remercier aussi les forces de l'ordre, les élus aussi qui sont là pour maintenir, même si la République est fragilisée, mais nous maintenir encore debout.
C'est vrai que l'État tient bon et que la justice tient bon. Et je suis d'accord avec vous, Rachel Kahn, que la France n'est pas antisémite. Mais malheureusement, la multiplication des actes antisémites en France est atroce. Et on aimerait tout de même entendre la majorité silencieuse plutôt que toujours la même minorité. Alors donc, dans votre... Allez-y.
Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, que je prends la parole parce qu'on est ensemble. Donc, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de censure. C'est-à-dire que, à l'époque, l'antisémitisme de 1940, c'était des lois de l'État.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est une partie du peuple. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que sous couvert de scander racisme systémique, en réalité, c'est eux qui font le racisme systémique. Moi, j'essaie dans ma prise de parole et dans mes écrits et dans ce que je vais faire avec Golda Meir jeudi, qu'on puisse faire un travail sur nous-mêmes pour ne pas avoir peur. Voilà.
C'est vrai. Et donc, vous essayez de défendre l'humanisme, ce qui est plutôt difficile, on va dire, en ce moment. Et vous espérez que la République va redevenir, si j'ose dire, humaniste.
C'est exactement ça. Et surtout, que nous puissions retrouver le même langage. Aujourd'hui, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, homme blanc de plus de 50 ans, par ailleurs, il faut bien souligner, qui n'est pas du tout ni sénégalais, ni musulman, ni rien. Et quand je vois... Comment toutes ces femmes dites racisées le regardent. En fait, c'est vraiment un contre-emploi de tout ce qu'ils défendent. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, toute la logorée de l'extrême gauche aujourd'hui se fonde sur des fantasmes. Ils se pensent les Rosa Parks, les Che Guevara, les Nelson Mandela. Ils nous racontent une histoire qui est complètement revisitée. Et donc, ils parlent un langage qui est complètement fou. Ils alimentent des haines pour la jeunesse. Et c'est ça qui est terrible. Et de l'autre côté, nous avons cette extrême droite qui tire profit, finalement, qui n'a rien à faire, puisque elle récupère le réel. Donc, elle a le monopole du réel. Et moi, dans ce livre, c'était un cri d'alerte pour retrouver un langage commun, un langage sensé, un langage qui nous répare. On peut avoir des opinions différentes, mais jusqu'à un certain point. Et la limite, en fait, c'est de sombrer dans l'inhumanité et surtout dans la fracture et la volonté de créer le chaos de toutes parts.
Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes juriste, actrice et écrivain. Votre dernier livre s'appelle « Encore debout, la République à l'épreuve des mots » aux éditions de l'Observatoire. Et vous vous y alarmez face à la montée des idéologies radicales qui fragilisent la République. Une parole courageuse et on vous en remercie. Bonne journée à vous et j'espère à bientôt.
On est tous courageux. Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.